Actu SF, les podcasts.
Bonsoir à tous. On a une conférence sur le croque-mitaine avec Sophie Laribi-Glaudel, avec la maman aussi de Sophie qui est dans le public. Sophie Laribi-Glaudel est professeure agrégée d'histoire. Vous enseignez notamment en histoire grecque à l'Université de Lorraine. Vous avez une bourse doctorale de la Fondation Mustela en 2016 pour votre thèse, Les dieux de l'enfance, étude des divinités de l'enfance et de l'adolescence et de leurs attributions en Grèce ancienne. Et vous êtes titulaire d'un master en assyriologie que vous avez consacré au rite de naissance en Mésopotamie et notamment en anthropologie religieuse, et vous intéresser au comparatisme. Voilà pour la présentation. On va surtout parler du croque-mitaine. Je vais laisser Sophie nous faire une présentation et puis ensuite on dialoguera tous ensemble.
Donc, effectivement, on a commencé par parler de comparatisme et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette conférence. Une conférence qui ne se veut pas exhaustive. On m'a dit 50 minutes. Eh bien, 50 minutes ne suffiraient même pas à parler de l'ensemble des monstres de l'enfance dans les sociétés anciennes, grecque et mésopotamienne, parce que je parlerai uniquement des deux-là, et 50 minutes ne suffiraient vraiment pas pour aborder le thème du croque-mitaine dans la littérature fantasy. Donc sur croque-mitaine, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, souvent on oublie ce qu'il veut dire. Donc c'est un mot qui est composé, qui associe au verbe croquer et à son cortège d'angoisse anthropophage un terme issu du moyen néerlandais Mädchen, ceux qui font un peu d'allemand ont reconnu Mädchen, la petite fille. Et ce croque-mitaine, eh bien, il désigne un personnage ou un animal imaginaire dont on menace les enfants pour les effrayer. Et c'est là, dans cette menace, que je fais mon rapprochement avec le monstre, monstrum en latin, donc le fait prodigieux ou l'avertissement des dieux. Par extension et association, le terme désigne les êtres tératomorphes, monstrueux, c'est-à-dire mal formés. Dans l'Antiquité, particulièrement en Mésopotamie, la naissance d'êtres monstrueux, humains ou animaux, était interprétée comme un signe envoyé par les dieux, un avertissement donc, la boucle est bouclée. Les monstres désignent aussi donc les êtres fantastiques, légendaires, mythologiques. Nous allons convoquer ici plusieurs figures de l'épouvante enfantine qui peuplent les récits mésopotamiens et grecs. Nous avons choisi ces deux mondes parce qu'ils ont livré un nombre important de sources écrites et iconographiques. Je vous rappelle que l'histoire naît quand l'écriture apparaît, ça tombe bien, ça se passe en Mésopotamie. Donc beaucoup de sources écrites, beaucoup de sources iconographiques, et aussi parce que si la Grèce et la Mésopotamie sont éloignées géographiquement et chronologiquement, ce sont deux mondes bien proches, comme l'ont montré nombre d'études menées à partir des textes homériques et hésiodiques, qui trouvent leurs racines dans ce que j'appelle un peu pompeusement la matière mésopotamienne. Nous nous accordons tous sur ce que nous devons à l'héritage gréco-latin, nous oublions souvent que nous sommes aussi tributaires de la civilisation d'entre les deux fleuves, la Mésopotamie. Si on peut mettre la suivante, voilà, une petite carte. Alors, désolée, un petit peu compliqué pour moi de vous montrer. J'ai choisi cette carte parce qu'on voit bien la Grèce et la Mésopotamie. Je me suis amusée une fois sur Google Maps, alors que j'étais à Athènes, à chercher la distance entre Athènes et Ninive. Alors le GIGN n'est pas arrivé dans la foulée parce qu'ils ont dû se demander pourquoi je regardais comment aller jusque dans le nord de l'Irak. Mais en fait, Athènes et Ninive ne sont guère plus éloignées que Athènes et Paris. Donc deux civilisations très très proches. Et la Mésopotamie, une civilisation dont nous sommes tributaires, puisque c'est elle qui donne à la Bible son récit du déluge. C'est aussi elle qui porte le premier roman de l'humanité, la première épopée, celle de Gilgamesh. Nous allons donc ici tenter de dérouler un fil d'Ariane, des tablettes cunéiformes, donc cette première forme d'écriture qui apparaît en Mésopotamie. Donc un fil d'Ariane, des tablettes cunéiformes au roman de fantasy. Alors comment rapprocher la fantasy de l'Antiquité ? C'est une période qui a inspiré nombre d'ouvrages du genre, mais les comparaisons qu'on va tenter d'établir ici impliquent de réfléchir au sens même du terme. Est-ce que fantasy, c'est applicable aux littératures antiques ? Donc j'ai chaussé à la fois mes lunettes d'antiquisante et d'anthropologue pour tenter de distinguer des catégories. Alors je vais employer des termes qui vont, mais je vais les expliquer juste après, ce qu'on appelle en anthropologie des catégories éthiques et des catégories émiques. La catégorie éthique, c'est la catégorie indigène, c'est-à-dire comment le peuple auquel je m'intéresse désignait, envisageait telle notion. La catégorie émique, c'est moi, en tant qu'anthropologue, comment j'envisage, comment je qualifie cette notion. Mais là où le problème se pose, c'est lorsque j'applique ma notion d'occidental du XXIe siècle sur une réalité mésopotamienne ou grecque. Voilà pour les catégories éthiques et émiques, j'en reparle encore un petit peu après. On va partir du point de vue de l'historien antiquisant français. Fantasy, c'est un terme anglais. Et souvent, lorsqu'une société reprend un terme d'une autre langue, bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle emprunte le mot pour désigner une notion qui lui est propre, ou bien est-ce qu'en même temps que le mot, elle adopte la notion que ce mot recoupe dans sa société d'origine. Pourquoi ne pas avoir défini une catégorie portant un nom français? Pourquoi rester en anglais? Est-ce que, à l'image des Grecs, et ma diapo ne diffuse pas, je vais passer, hop, voilà. Est-ce que, à l'image des Grecs qui empruntent aux vieux Perses le mot magie, nous voulons signifier que cette notion de fantaisie nous est étrangère, que la fantaisie serait un style étranger? Alors, certains spécialistes proposent, les spécialistes français proposent de traduire fantasy par épopée fantastique. Là, j'avoue, ça parle beaucoup plus à l'antiquisant. Je vais éviter, pour ne pas le faire fuir cet antiquisant, de parler de médiéval fantastique, parce que là, évidemment, on range nos clics, nos claques, nos tablettes et nos calames, et on s'enfuit. Donc, restons sur épopée fantastique. De définition en définition, nous avons établi que dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, fantasy ne se distingue guère du merveilleux, qui fait intervenir dans le récit des mondes dits secondaires. Toutefois, les scribes mésopotamiens, pas plus que les érudits grecs, n'ont défini de catégorie littéraire que nous pourrions traduire par fantasy. Donc il n'y a pas de catégorie éthique, et j'applique une catégorie émique. Je pose mes précautions. On n'a pas de catégorie littéraire qui correspondrait à fantasy ou merveilleux. En revanche, on peut reprendre des catégories qui ont été définies par les philosophes grecs, en tête évidemment Platon, qui oppose le mythos et le logos, le mythe et la raison. Ce serait donc dans les mythes que l'on pourrait retrouver les racines de la fantasy. L'un des romans fondateurs du genre, Frankenstein de Mary Shelley, dont nous fêtons les 200 ans, n'a-t-il pas pour sous-titre Prométhée moderne ? Monstre fantasy, nous avons donc établi des liens entre antiquité et période contemporaine. Qu'en est-il de l'enfance ? C'est un peu long, mais il faut que je pose bien ces bases. Longtemps, on s'est dit que l'enfance n'avait pas d'histoire. Du moins, pas avant le XVIIIe siècle et l'émergence de l'individu dans la philosophie des Lumières. Heureusement, depuis la fin du XXe siècle, nombre d'historiens ont complètement corrigé cette idée. Et clairement, eh bien, on peut écrire l'histoire de ces enfants pour la plupart des périodes historiques et des régions du monde. À condition, évidemment, que les sources nous révèlent des traces de ces petits hommes. La documentation cunéiforme et grecque ont laissé nombre d'informations sur ces petits mésopotamiens, sur ces petits grecs, et un trait commun dans ces sources, eh bien, c'est justement la figure du monstre, du croque-mitaine, sur laquelle nous allons nous pencher. Donc, que nous disent les monstres de l'enfance des sociétés qu'ils ont portées et quels invariants émergent de ces lectures comparées ? Les sources les plus anciennes témoignent bien de l'existence de ces croque-mitaines qui vont revêtir différentes apparences et attributions, mais présentent des points communs. Ces monstres donc révèlent des angoisses partagées. Fantasmagoriques et objets de fantasmes, ils peuplent aujourd'hui encore la littérature dite fantasy sous leurs noms antiques, parfois dépouillés de leurs attributions historiques. Toutefois, une étude de quelques œuvres que je vais classer dans fantasy, mettant en scène des enfants, révèle des invariants autour de ces peurs, de ces figures de l'épouvante qui transcendent les millénaires. Donc je vais vous parler des monstres de l'enfance dans l'Antiquité, faire un petit catalogue de mes monstres. Donc une typologie, je vais vous parler de l'Amashtu. L'Amashtu est une catégorie émique, une démone chassée du ciel par son père Anu, parce qu'elle aurait révélé qu'elle aimait bien manger de la chair de bébé humain de temps en temps. Elle se fait passer dans les incantations, je m'appuie sur des textes, dans ces incantations on dit qu'elle se fait passer pour une sage-femme ou pour une nourrice, qu'elle s'attaque aux femmes enceintes, aux parturientes et aux nouveau-nés, qu'elle tue en les allaitant. Dans ce cas-là, sa poitrine n'est plus un symbole de fécondité ou de vie distillée par le lait, mais le symbole de la mort inéluctable du petit homme. Dans les incantations, elle n'est pas désignée comme une démone, ce qui est une appellation moderne, un concept émique donc, qui lui est appliqué. Dans les incantations, son nom est précédé de ce signe cunéiforme, qui est traduit par le dingir, et qui signifie qu'elle est une déesse. Lorsque vous avez ce signe, alors j'ai mis la version la plus ancienne, il est simplifié dans les tablettes plus récentes, mais voilà. Lorsque vous avez ce signe devant un nom propre, on vous indique que le nom qui suit est celui d'un dieu ou d'une déesse. Et puis, elle est aussi parfois explicitement mentionnée comme une déesse dans les textes. Alors ici, hein, celle-là, je ne vois pas très très bien ma diapo. Donc la Mashtu, la fille d'Anu, je n'arrive pas à voir la suite. Voilà, les sœurs des dieux de la rue. Voilà, épée qui tranche le crâne, celle qui allume le feu, et déesse dont le visage est effrayant. Donc elle est bien désignée comme une déesse. La Mashtu donc appartient au monde des dieux, mais ses pratiques la marginalisent. Son père Anu découvre ses penchants anthropophages, nous l'avons vu, et il la chasse du ciel. Un autre signe donc de sa marginalisation, elle est associée à l'effroi et à l'animalité, puisqu'elle est représentée sous les traits d'un être hybride. Je vous en montrerai des représentations juste après. Elle est reléguée donc du monde hors du monde civilisé. Ici, on le voit dans la rue, mais également dans les montagnes. Afin donc de mettre la Mashtu en fuite et de la garder à distance puisqu'elle s'attaque aux humains, des incantations étaient récitées. Donc voici un extrait, un certain nombre nous sont parvenus. Donc les premiers rituels contre la Mashtu apparaissent au deuxième millénaire dans des textes sumériens et puis on en a jusqu'à l'époque néo-assyrienne. Donc on a des descriptions littéraires du physique et des méfaits de la démone qui ne varient guère au fil du temps. Voilà. Je vais juste rester sur cela. Donc voici un exemple d'incantation hein, et effectivement les motifs évoluent guère. Donc le nom de la Mashtu dans la documentation cunéiforme, c'est à la fois la démone, concept émique, et une maladie. Donc les incantations et les rituels pratiqués ont une dimension apotropaïque, c'est-à-dire qu'on veut se protéger de ses méfaits. Et on veut se protéger, donc prévenir ses attaques. Et certains étaient donc mis en œuvre lorsqu'on pensait qu'elles étaient attaquées à un enfant. Donc il y a des offrandes qui accompagnent ces rituels. Donc ici, c'est un sacrifice de chien noir. Et puis il y a aussi une question de libation d'eau pour qu'elle puisse partir, quitter le corps de cet enfant. J'en ai mis d'autres. Alors voilà, hein, juste je vais passer les textes rapidement. Sur ces descriptifs physiques, elle est effrayante, elle n'est pas médecin, elle soigne, bien qu'elle ne soit pas sage-femme, elle lange le bébé, etc. Hein, c'est ce que je vous disais. Cette déesse qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas pour attaquer les enfants. Alors là, voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu de cunéiforme. Donc voilà une tablette cunéiforme qui porte une incantation contre la Mashtu qui est conservée au British Museum. Donc c'est son inventaire BM, c'est là 120-022, je crois. Dont voici le texte hein, retourne dans ta montagne aux douze odeurs, etc. Donc la Mashtu est associée à la montagne qui est le monde sauvage. Le monde du sauvage, l'incarnation du monde hors de la civilisation, pour la Mésopotamie. Donc on l'a vu, hein, dans certains textes, elle porte le titre de Kadishtu, c'est la nourrice, elle est en charge de l'allaitement de l'enfant, on voit que ça se passe mal quand elle s'en occupe. Voilà, donc je reviens juste sur le texte là, c'est toutes ces dons qu'on lui fait pour qu'elle s'en aille. Alors, j'en viens aux représentations. Donc, on a de nombreuses représentations iconographiques de la démone, notamment sur des amulettes. Donc, voici quelques dessins qui ont été faits à partir de ces objets. Amulettes qui étaient utilisées lors des rituels apotropaïques. Donc, elle est fréquemment représentée avec des animaux, comme ici, qu'elle tient dans ses bras ou qu'elle allaite. Ce sont ici des substituts aux enfants qu'on cherche alors à protéger. Hein. Vous avez vu, je t'ai offert ce chien noir en sacrifice. Eh bien, on offre le chien noir pour que la Mashtu parte avec le petit chien et laisse l'enfant tranquille. Je passe à la suite. Alors, ces chiens, donc, ce sont ces animaux, pardon, ce sont des chiens et aussi des porcs, sans doute parce qu'ils renvoient au monde de l'impur. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur ces interprétations, d'autant que ce sont des animaux de la sphère domestique. Et puis, en Mésopotamie, on a la déesse de la médecine qui s'appelle Gula et qui est accompagnée de chiens. Donc, cette interprétation de l'impureté n'est pas hyper convaincante. Alors, Ces amulettes donc étaient utilisées dans le cadre de rituels pour faire fuir la déesse. Et parmi ces amulettes, on a cette plaque dont je voulais vous parler parce qu'elle est conservée au musée du Louvre. On l'appelle la plaque des enfers. Elle fait 13 cm de haut et ce n'était pas une amulette, c'était une plaque qu'on devait sans doute accrocher au mur au-dessus du lit du malade ou de la femme enceinte en train d'accoucher. Alors sur le troisième registre, voilà, on a une scène qui dans un rituel qui se passe dans une chambre. Il y a deux apkalous, ces hommes poissons qui entourent le génie, et derrière eux vous avez des démons à tête de lion. Si tu peux juste repasser la suivante. Non, c'est pas en fait, faut que tu, voilà, encore une fois. Non, c'est pas grave. Au deuxième registre, donc juste en dessous de celui-ci, vous avez des génies hybrides, comme la Majtou. Ici, comme Pazuzu, sur lequel on va revenir, ils sont bienveillants. Et le premier registre que vous avez, c'était juste avant, mais c'est pas grave, vous avez en fait des symboles de différents dieux qui sont invoqués pour faire fuir la Majtou. Alors ici, je vous en ai parlé, je viens de vous en parler, hein, vous avez deux personnages principaux, dont Pazuzu, voilà, qu'on distingue là, qui agrippe en fait la tablette. Il apparaît un peu en retrait, il n'intervient pas directement dans la scène rituelle. C'est sa tête qui émerge de la plaquette, mais son corps est visible au dos, voilà, au dos de la tablette. Et la Majtou, donc, elle apparaît sur le registre inférieur. Ouais, voilà, très bien. Elle est donc sur le registre inférieur. Elle tient des animaux sauvages. Ici, ce sont des serpents. Elle allaite un chiot et un porcelet. Elle est accompagnée d'un âne placé sur une barque et on distingue autour d'elle donc des offrandes qui vont l'accompagner, comme ce que l'on peut lire dans les rituels écrits. Alors, après vous avoir présenté cette la Majtou, une croque-mitaine mésopotamienne, je vais passer encore une représentation. Je passe juste le suivant. Voilà, quelques représentations où elle tient des animaux. Voilà, je vais vous parler d'une croque-mitaine grecque qui s'appelle Lamia. Lamia apparaît dans la littérature grecque au 5e siècle. Un bond dans le temps, notamment chez Aristophane et chez Euripide, et son histoire est fixée pour la première fois sous le calame d'un auteur qui s'appelle Duris de Samos. Il la dépeint comme une belle Libyenne, séduite par Zeus et punie par Héra qui tua ses enfants. De désespoir, elle devint laide et difforme, elle s'attaqua alors aux enfants des autres. L'histoire est reprise par Diodore de Sicile, voilà le texte suivant, qui en fait une reine de Libye qui a perdu ses enfants et qui, de tristesse et rongée par la jalousie, ordonne la mise à mort de tous les nouveau-nés du royaume. Finalement, elle est prise en pitié par Zeus, qui lui accorde, pour qu'elle puisse dormir, d'enlever ses yeux. Donc elle a des yeux amovibles. Souvenez-vous de l'histoire des yeux, j'y reviens après. Lamia donc apparaît dans une pièce de Euripide. Alors j'ai mis un Dox, on peut passer au suivant. Lamia apparaît donc dans une pièce d'Euripide dont seuls des fragments sont conservés et on n'est pas trop sûr du titre de cette pièce. On pense que cette pièce s'appelait peut-être Lamia, on n'en est pas sûr. Et puis, comme la Majtou, en fait, dans d'autres versions, elle serait en fait la fille de Poséidon. Et ce serait donc aussi une déesse. Elle est d'ailleurs présentée ainsi dans un fragment d'Euripide qui dit donc qu'elle est la mère de la Sibylle, qu'elle aurait eu des œuvres du dieu Zeus. Donc c'est une filiation qui est aussi reprise par Plutarque, qui en fait la première Sibylle ayant prophétisé à Delphes, et qui est aussi reprise par Pausanias. C'était l'extrait que je montrais juste avant, mais on ne va pas s'y attarder. Comment est-ce qu'on représente Lamia? Eh bien, aucune représentation en est attestée. En revanche, on l'aurait reconnu sur certaines céramiques. Alors là, j'avais mis un bronze hellénistique de Scylla, qui serait, selon certaines versions, la fille de Lamia. Alors, on pense la reconnaître sur certaines céramiques. Donc ici, c'est sur un skiphos qui est conservé au Musée national d'Athènes, mais tout le monde ne s'accorde pas sur cette représentation. Voilà encore une représentation. Alors, c'est sur celle-là que je voulais un petit peu m'attarder. On a voulu associer cette représentation à Lamia, puisqu'on distingue une figure un peu effrayante en train de courir après un plus petit bonhomme, tandis que le deuxième petit bonhomme, lui, a déjà réussi à se réfugier en haut d'un arbre. On n'est absolument pas sûr que ce soit Lamia. puisque voilà, on n'a pas d'autres représentations pour confronter, mais voilà, on aimerait bien l'y reconnaître. Alors, il y a d'autres croque-mitaines en Mésopotamie, dans le monde grec, mais aussi en Mésopotamie. Voilà, donc notamment Mormo, Gelo, Ardat Lilith, enfin bref, les autres monstres croqueurs d'enfants. Alors, Mormo, c'est un personnage d'ogre nourrice qui apparaît dans la documentation grecque. Elle est liée au nom animal et son nom renvoie au loup. On l'appelle aussi Mormolouka. Ce motif du loup renvoie bien à l'aspect sauvage qui est prêté à l'enfance dans le monde grec ancien. Et c'est un motif qui apparaît d'ailleurs aussi dans la documentation cunéiforme. Alors, cette Mormolouka vivrait dans l'Hadès et elle était utilisée par les nourrices pour effrayer les enfants turbulents. Évidemment, quand on entend parler de Mormolouka, on a envie de penser à la Mashtou, hein, qui elle est mi-chienne, mi-ânesse, qui a l'aide des porcelets et des chiots et qui tue par la nourriture les nouveau-nés dont elle s'est saisie. Alors, Mormo, donc, je vous l'ai dit, était utilisé pour faire peur aux enfants. On a notamment la 15e idylle de Théocrite, dans laquelle un enfant réclame de suivre sa maman qui s'apprête à partir faire une fête nocturne et participer donc à des fêtes en l'honneur d'Adonis. Et on menace l'enfant, bien que s'il désobéit, s'il suit sa maman, il sera mordu par l'ogresse. Hein, je ne te prendrai pas avec moi. Mormo, le cheval, mort. On a retrouvé chez les scolias, c'est-à-dire ceux qui ont commenté dans l'Antiquité Théocrite, une explication selon laquelle Mormo désignerait aussi bien une démone qu'une maladie infantile. Alors sur les autres, je vais passer plus rapidement. On en a d'autres qui sont, on a d'autres figures de croque-mitaines. On a par exemple Gelo. Alors c'est très intéressant puisque c'est un auteur qui commente Sappho, qui est la première à nous parler de Gelo et qui nous dit qu'en fait Gelo est morte prématurément. Elle est morte parthénos, c'est-à-dire jeune fille non mariée, et que son fantôme, par conséquent, se venge sur les petits-enfants. Alors Gelo est très intéressante pour les assyriologues parce qu'elle nous fait penser à Gelu, qui est une figure maléfique akkadienne. Alors, le Gelu, ses attributions sont très générales, il ne s'attaque pas qu'aux enfants. En revanche, au-delà de la ressemblance des noms, la proximité semble plus étroite entre Gelu et une figure qu'on appelle l'Ardat Lili, ou la Lilitou, et son équivalent masculin, le Lilou, donc le spectre, qui désigne des entités mortes prématurément dont le passage n'est pas achevé. Et d'ailleurs, la Mashtou est associée dans une incantation ougaritique à cette Ardat Lilith, en preuve qu'on a vraiment un catalogue de croque-mitaines qui sont assez proches. Alors, ces croque-mitaines en Mésopotamie ou en Grèce sont des témoins de ces sociétés anciennes. Naissance et accouchement, je fais lapsus, mais vous allez comprendre, sont des moments périlleux de la vie humaine. Le taux de mortalité infantile était particulièrement élevé dans ces sociétés anciennes. Un enfant sur deux décédé avant l'âge d'un an. Les mères, évidemment, n'étaient pas non plus épargnées à cause du manque d'asepsie, des manques de connaissances médicales. Beaucoup mouraient des suites de leur couche, d'hémorragie ou de fièvre puerpérale, dues généralement à des infections contractées pendant l'accouchement. Donc la femme en couche apparaît particulièrement vulnérable et on attribue ces dangers à l'intervention d'entités maléfiques, sinon à la non-intervention de divinités. Alors, ces croque-mitaines dont je vous ai parlé sont porteurs d'invariants et ils revêtent des formes différentes, mais ils ont des points communs. Donc vous avez l'Amia, dont les enfants ont été tués par Héra et qui se met donc à tuer les autres enfants. Et cette Lamia est présentée comme d'origine étrangère. Alors, on a voulu voir, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais entre Lamia et la Mashtou, des proximités, on a des spécialistes qui le défendent, qui penseraient que Lamia serait en fait une Lamashtou adoptée par les Grecs, un témoignage d'un transfert culturel. Il faut rester beaucoup plus prudent. En revanche, il y a des points communs, clairement, entre la Mashtou et Lamia. Toutes deux s'attaquent aux bébés et aux femmes, mais pas seulement, puisque la Mashtou peut aussi s'attaquer à des adultes. Les deux sont associés au monde du sauvage, la Mashtou dans ses montagnes, et puis Lamia, cette étrangère, cette orientale, cette libyenne. Il y a aussi le thème du cannibalisme qu'on retrouve chez Mormo et qu'on retrouve aussi chez la Mashtou. Une bestialité autour de cet aspect hybride, autant chez la Mashtou que chez Mormolouka, donc à tête de cheval, ou qui est aussi associé au loup. Donc Lamia, dans les textes grecs, on l'a vu, est dite libyenne ou phénicienne, et je vous l'avais dit tout à l'heure, la Mashtou est priée de retourner dans ses pénates, en fait, dans un monde des marges par rapport à la société qui écrit. Elles sont stériles toutes les deux. Alors pour Lamia et pour Lardat Lily, elles sont difformes, elles sont laides, elles sont hybrides. Et elles, dans le cas de Lardat Lily et de Gelo, donc elles sont victimes d'un passage inachevé ou raté. Ce qui m'amène à la suite, voilà. Alors, quelque chose qui est très éclairant pour comprendre ces figures étranges qui interviennent pendant l'enfance ou pendant la grossesse, eh bien, c'est le modèle génépien, enfin de Genève, des rites de passage. La figure de Lamia, de la Machetou, des croque-mitaines en général, donc cette étude, ces figures sont éclairées par ce schéma. Donc très très rapidement, au début du XXe siècle, fin de Genève publie les rites de passage où il met en avant une structure ternaire de ces rites, de ces pratiques plus ou moins codifiées qui accompagnent les grandes étapes de la vie humaine et que les anglo-saxons désignent sous le nom de « life crisis ». Le passager passe par trois étapes, séparation, marge, agrégation. Alors c'est très simple ce schéma, mais en fait il est extrêmement parlant et structurant. Et en fait on se rend compte que les rites de passage c'est pas si simple parce qu'un accouchement en fait c'est toute une série de rites de passage qui concernent différents passagers, l'enfant, la mère, le père, et ces rites s'enchevêtrent. Donc c'est uniquement modélisant, hein, c'est pour nous aider à mieux comprendre, mais évidemment il ne faut pas essayer de l'appliquer de manière trop... trop simpliste. Et cette l'étape qui nous intéresse, c'est la deuxième, c'est celle de la marge et de l'isolement. C'est le moment de tous les dangers. On est séparé de la protection du groupe. On se retrouve face donc à de nombreux dangers qui s'incarnent notamment dans la figure de ces croque-mitaines pour les enfants, à l'instar des Lamachtou, Gelo, Ardat Lilith, Lamia et autres mormons. Ce sont d'ailleurs des entités de marge, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors quand le passager, l'enfant ou la femme est en marge, donc privé de la sécurité du groupe, il se trouve en situation d'entre-deux et de danger, je l'ai dit, et il est au piège, il est aux prises pardon, avec des entités elles-mêmes ambivalentes. Évidemment, on l'a vu, la fragilité des tout-petits et des jeunes accouchés a constitué pour les sociétés anciennes le terreau fertile à l'émergence de ces figures effrayantes et inquiétantes. Une fois que les phases les plus critiques sont passées, que le nouveau-né, le nourrisson est devenu un enfant, eh bien, ces entités continuent d'être convoquées, non pas pour expliquer la mortalité infantile, mais pour inspirer l'effroi et servir d'alliés aux mères, aux pères et aux nourrices, qui doivent alors accompagner l'éducation d'un individu qui est encore en passage, qui est encore inachevé, puisqu'il est sur la route de l'âge adulte. Alors, je voulais juste faire un point sur l'autre, au miroir des monstres. Ce qui est très intéressant, c'est que ces monstres, ces croque-mitaines, eh bien, on les dépeint comme étrangers à notre société, à notre civilisation. Ils ne peuvent pas être de chez nous. La Machetou, elle vient de la montagne. Lamia, elle vient de Libye. Alors, certains se sont dit, ah oui, mais Lamia qui vient de Libye, c'est peut-être parce que c'est vraiment la Machetou qui vient de l'Orient. Si on se place du point de vue des Grecs, c'est vraiment une manière pour eux de dire, ce personnage... il n'est pas né de notre société. Nous n'aurions jamais inventé un personnage qui ferait du mal aux enfants. Je pense que c'est plutôt ainsi qu'il faut interpréter l'orientalisme dans les descriptions de Lamia. Alors, je conclue ce premier catalogue un petit peu long. Donc, ces croque-mitaines et ces monstres de l'enfance expliquaient dans l'Antiquité la mortalité infantile, mais avaient aussi une vocation éducative à travers l'épouvante qu'ils provoquent chez l'enfant désobéissant ou sur le point de l'être. Et je voulais vous parler d'un petit passage de Callimaque, je crois qu'il est juste après. Voilà, dans l'hymne à Artémis. Alors, il explique que Artémis, elle n'a pas du tout peur des cyclopes, puisqu'elle va leur commander une partie de ses attributs. Mais en revanche, les nymphes qui l'accompagnent en ont extrêmement peur. Et en essayant d'expliquer que les nymphes et les déesses peuvent aussi avoir peur, Callimaque donne ce passage, en fait, où il explique que les petites déesses qui désobéissent à leur maman déesse, eh bien, elles voient débarquer chez elles Hermès, barbouillé de cendres, qui vient leur faire peur pour leur rappeler qu'il faut obéir à sa maman, même quand on est une petite déesse. Mais évidemment, Artémis, qui, elle, est très précoce, n'a pas du tout peur d'Hermès, contrairement à ses comparses. Alors, les monstres de l'enfance constituent une forme de mythologie éducative à l'usage des parents et des autres professionnels de l'enfance dès l'Antiquité. Donc, on a rencontré aussi quelques monstres bénéfiques. Hein. Il s'agit pour l'essentiel d'entités hybrides. Alors, je n'ai pas mis de représentation. On a les fameux Lamassu, ces taureaux androcéphales, tristement célèbres puisque certains ont été détruits à Ninive. Et puis, donc, on a vu aussi que Pazuzu pouvait être invoqué pour mettre en fuite la Machetou. Et on a d'autres entités bienveillantes hybrides sous la forme des centaures, notamment de Chiron. On a trouvé donc cette statuette dans une tombe de petite fille à Lefkandi en Eubée. Donc une figurine en terre cuite de centaure qui était sans doute là pour protéger la petite fille morte prématurément. Ces centaures apparaissent dans des rites de passage à l'âge adulte, notamment donc les rites de maturation. On retrouve beaucoup de ces figurines dans les sanctuaires qui les abritaient. Et puis donc la figure de Chiron, hein, je vous le rappelle, dans la mythologie, qui aurait formé Asclépios, Jason et bien sûr Achille. Alors je vais voilà, je voulais montrer le fameux Chiron avec Achille. On peut peut-être rester sur cette diapo ou remettre la suivante. Voilà. Sur la fantaisie, alors est-ce que juste me dire combien de temps il me reste ?
Un quart d'heure.
Un quart d'heure. Eh bien, ça devrait être bon. J'ai un peu accéléré, mais ça va aller. Alors sur ce sujet, il ne nous est pas possible d'être exhaustif et on a accès, donc j'ai accès mes recherches sur deux aspects, un aspect sur deux figures, Lamachtu et Pazuzu. Alors, vous avez compris que j'ai une démarche d'anthropologue et mon idée, c'était vraiment, avec ma démarche d'anthropologue et d'historienne, essayer de voir tous ces invariants que j'avais mis en avant autour de ces figures antiques, lesquels est-ce que l'on retrouve dans la littérature dite fantasy. Alors, je suis partie à la recherche du couple Lamachtu et Pazuzu, notamment donc, en regardant dans les catalogues de livres de fantasy un petit peu comment est-ce que les auteurs contemporains s'appropriaient ces figures. Alors Pazuzu, il est évidemment très célèbre grâce à un film d'horreur qui s'appelle L'Exorciste et après les années 70, donc il va apparaître dans de nombreux films, jeux vidéo et autres comics. Il semble pourtant, d'après les recherches que j'ai faites, qu'il est plutôt mal connu et qu'on interprète mal son aspect terrifiant, hein, qu'on l'interprète à l'aune de notre regard 20e, 21e siècle, et que l'on oublie un petit peu tout l'héritage et tout le poids historique que ce personnage pouvait avoir. Et on a exactement la même chose chez Lamachtu, qui me paraît encore moins bien cerné, encore moins bien connu. Alors, dans Final Fantasy, Lamachtu apparaît sous les traits d'un monstre, totalement éloigné de sa réalité historique. Je suis allée voir les représentations, les dessins qu'on faisait de Lamachtu. Elle se transforme en espèce de dinosaure, dragon, très 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 loin de ma Lamachtu mésopotamienne, mais j'y reviendrai après dans la conclusion. Pour moi, c'est très intéressant. Alors, j'ai intitulé ça complètement à l'ouest, pas pour me moquer de l'auteur, mais pour réfléchir un peu à ce qu'il a écrit. Alors ça, je vous ai donné ma méthode, je suis allée voir dans les catalogues, j'ai tapé Lamachtu, et chaque fois que Lamachtu apparaît, je suis allée lire le pitch, j'ai essayé aussi d'aller lire le livre. Donc Lamachtu, d'un auteur qui s'appelle Pierre Coulet. Alors lui, dans son livre, qui est donc un livre de fantasy, ce sont des archéologues qui découvrent une momie dans une ancienne cité péruvienne. Là, j'ai toujours un petit peu du mal à comprendre le rapport avec Lamachtu, et ensuite, il se révèle que cette momie est celle de Lamachtu. Je dis, waouh, la belle réappropriation, on est très très loin de ma mésopotamienne, mais pareil, c'est très très riche de sens. Et alors, cette Lamachtu est là, je retombe sur mes pieds, elle se réveille et elle se venge en déclenchant une épidémie. Ma mésopotamienne en est tout à fait capable. Dans un jeu de rôle, on a Lamachtu et Pazuzu qui apparaissent dans Donjons et Dragons, et ce sont des démons. Et là encore, c'est un concept émique, c'est-à-dire c'est l'interprétation judéo-chrétienne du démon qui est collée sur notre Pazuzu et notre Lamachtu. Voilà, donc là on est vraiment dans ce qui révèle la fascination et les fantasmes. On le retrouvera après, tous ces fantasmes autour de l'archéologie, en particulier de l'archéologie orientale. Je vous rappelle que la Mésopotamie, on la redécouvre, elle n'est pas totalement éclipsée, mais on la redécouvre vraiment au 19e siècle, et on traduit officiellement l'Akkadien et le Sumérien en 1857. Donc forcément, c'est un terreau extrêmement fertile pour tous ces fantasmes. Sur le million de tablettes qu'on doit avoir maintenant mis au jour, on en a 200 000 à peu près, tout à fait sûr des ordres de grandeur, qui sont déchiffrés. Donc c'est une civilisation qui est encore complètement à découvrir, et ce qui explique cette fascination. Là où j'ai trouvé des choses très intéressantes, c'est sur Lamachtu qui devient une anti-déesse mère. Et c'est dans une BD qui est consacrée au jeu de rôle Pathfinder, donc le tome 3 s'intitule en français L'enfant de Lamachtu, et là, Lamachtu est la mère des monstres. La mère des monstres dont on craint la colère. Donc on retrouve un petit peu plus les attributions de notre Lamachtu mésopotamienne. Elle a une apparence hybride, elle a une tête de chacal, elle a trois yeux, Je vous avais parlé tout à l'heure de cette lamia qui fait peur parce qu'elle peut retirer ses yeux. Et bien là, cette lamia chtou fait peur parce qu'elle en a trois. C'est une mère des monstres, donc elle apparaît comme une déesse mère inversée. Toutefois, et je fais quand même une parenthèse maintenant, justement pour casser ce concept émique qu'on a de la déesse mère, parce que quand on pense déesse mère, nous, tout de suite, on va penser à la Vierge, à l'enfant. La déesse mère et les déesses mères antiques, autant en Grèce qu'en Mésopotamie, ce sont des figures ambivalentes. Parce qu'elles sont créatrices, elles sont aussi force destructrice. Nous, ça nous paraît très choquant que Artémis protège les femmes enceintes. Alors, ce n'est pas une déesse mère, hein, mais elle protège les femmes enceintes, elle protège les enfants, mais elle peut aussi décocher ses flèches et tuer une femme enceinte, ou en tout cas une femme en train d'accoucher, parce qu'elle a décidé de ne pas la protéger. Vous avez cette ambivalence qui est extrêmement importante, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de bien comprendre le système religieux des anciens. On n'a pas les méchants démons et les gentils. Pazuzu peut être bénéfique comme maléfique. Lama Chtou peut décider de partir et donc, du coup, d'avoir accompli une action bénéfique. Voilà. Il faut faire vraiment très attention quand on étudie les religions anciennes à vraiment oublier un peu nos concepts émiques pour essayer de mieux de lire la civilisation et la religion avec les notions et les concepts de la société en étude. Alors donc voilà, sur cette Lama Chtou anti-DSMR, j'avais trouvé ça très très intéressant. Alors là, je reviens un petit peu sur le fantasme et la fascination et le motif de l'orientalisme. L'orientalisme, il est à l'origine de la fascination que la culture populaire manifeste pour Pazuzu, culture populaire et fantasy. Notamment, donc, je vous ai parlé de l'exorciste, hein, dans le début de l'exorciste, vous avez le père Mérine, hein, si je ne me trompe pas, qui découvre la statue du démon sur un site mésopotamien, Atra, on est dans le nord de l'Irak, et il libère, hein, le démon qui prend possession d'une adolescente. Et là, pour moi, c'est très intéressant parce qu'on retrouve ici le motif de la liminalité, de la marginalité, c'est la même chose, de ces jeunes filles qui sont entre enfance et âge adulte. Si vous vous référez au corpus hippocratique, les parthénoïdes, donc ces jeunes filles à marier qui sont nubiles mais pas encore mariées, elles sont dépeintes comme ayant plein de maladies possibles imaginables, elles sont entre guillemets hystériques, il faut les marier au plus vite pour les calmer. Et je trouvais ça très très intéressant parce qu'on retrouve ce motif. Je ne pense pas que ce soit anecdotique, je ne pense pas que ce soit un pur hasard, une pure coïncidence que ce soit un personnage de jeune fille qui soit possédé dans l'exorciste. Je pense qu'il y a beaucoup à creuser aussi autour de cette liminalité, de cette adolescence qui fait extrêmement peur, qui nous fait encore peur aujourd'hui et qui faisait aussi peur dans les sociétés anciennes, même si parler d'adolescence, c'est utiliser un concept émique qui n'existe pas à l'époque. Alors j'ai trouvé un autre texte où il est question d'archéologues. C'est un auteur espagnol qui a écrit, je traduis, la saga de Lama Chtou. Des archéologues sont envoyés au nord de l'Irak et ils déclenchent l'intervention de Pazuzu. Et on a un petit fond de bitlite puisqu'il y a des vampires aussi qui s'en mêlent. Très intéressant parce que le vampire, à ma connaissance, en Mésopotamie, on n'en a pas. Alors c'est le parèdre, hein, de Lama Chtou qui a le plus de succès, c'est sans doute dû à l'exorciste, donc Pazuzu, qu'on retrouve dans de nombreuses BD, alors chez Adèle Blanc-Sec. J'ai aussi retrouvé une autre BD qui s'appelle L'Agence, dont un tome est intitulé Dossier Pazuzu. L'intrigue se passe en Irak en 2003, en début de la deuxième intervention américaine, dans un musée archéologique où on s'intéresse évidemment à des pièces rares. On est encore dans cette fascination de l'archéologie 19e où on cherche des trésors, alors que je vais peut-être briser des fantasmes. On est très heureux pendant des fouilles sur un site archéologique lorsque l'on trouve des petits tessons de céramique, même s'ils sont moches de notre point de vue extérieur, tout simplement parce que ces tessons de céramique généralement nous permettent de dater. Et c'est ça qui nous intéresse. Un trésor très beau, hors stratigraphie, hors contexte, il est perdu pour l'archéologie et pour l'histoire. Il est très beau, mais il ne nous intéresse plus, malheureusement. Mais là, on retrouve, hein, cette idée, on va s'intéresser à des pièces rares et on réveille Pazuzu. Et puis, j'ai retrouvé un autre auteur, hein, donc Bal Kadmon, dans Pazuzu Rising. L'intrigue se passe en Mésopotamie, on a encore Pazuzu, mais une fois de plus, c'est un démon et on a une lecture très judéo-chrétienne de notre brave Pazuzu. Alors, on l'a vu, hein, dans ces textes, Lama Chtou, elle est toujours là, mais elle est complètement dépouillée de ses attributions de monstre de l'enfance, à part lorsqu'elle est la déesse mère inversée. Mais on a vraiment quitté la figure du croque-mitaine et c'est juste une figure exotique que parfois l'on rapproche de Lilith, ce qui me paraît à moi être un parallèle fautif. Mais voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Je pourrais en dire plus un peu dans quelques mois. Alors, je voulais juste revenir sur l'enfant, puisque finalement, ces monstres, ces croque-mitaines, ils nous font peur parce qu'ils s'attaquent à l'enfant. Et finalement, l'enfant, c'est une période de la vie qui est porteuse de pas mal de ces épouvantes. L'enfant, si je vous renvoie au schéma de fin de Genève, c'est un être liminal, un être en marge. C'est déjà quelqu'un, mais c'est pas tout à fait quelqu'un. C'est pas encore un adulte, c'est un adulte en devenir. Il est vivant, mais il n'y a pas si longtemps, il n'était pas vivant. Il est dans un cycle qui va, étape par étape, le conduire à sa forme finale, à sa forme achevée, la figure de l'adulte. L'enfant, c'est un être inachevé, j'aime bien dire ça, généralement ça choque tout le monde. Dans notre société du XXIe siècle, on nous dit que l'enfant est une personne incomplète pour nos Grecs et nos Mésopotamiens. Alors, je vais aller très rapidement, je pense que ce serait des intitulés de conférences à eux seuls. J'ai voulu voir un petit peu le motif de l'initiation dans la littérature dite fantasy, donc cet accompagnement de l'enfant vers l'âge adulte. Ce qui m'intéressait d'autant plus que beaucoup de ces livres sont lus par des adolescents qui eux-mêmes sont dans cette phase liminale, et c'est ce passage qui va les conduire vers l'âge adulte. Alors, très rapidement, deux textes. Je vous avais dit dans l'introduction que je parlais de merveilleux, ça me permet de prendre un exemple où je remonte dans le temps et je me décale un peu vers l'est, je reste vers ma Mésopotamie puisque j'ai pris les mille et une nuits. Et finalement, dans les mille et une nuits, la figure d'Aladin fait écho au rituel de maturation. Il est dans un état de marginalité, il est jeune et en plus c'est un voleur, et il est aidé par un monstre bénéfique, cette fois-ci, le génie qui va l'aider à atteindre l'âge adulte. On a un rite d'adolescence finalement qui apparaît ici. Alors je pense que beaucoup de personnes connaîtront ça mieux que moi, ça m'a beaucoup intéressée dans Harry Potter, la figure des épouvantards, ces incarnations de terreur et de frayeur qu'il faut combattre. Et finalement, dans nos rites de maturation, surtout pour les jeunes garçons en Grèce en particulier, on a toute cette notion du monde sauvage qu'il faut affronter, auquel il faut se confronter. Typiquement, c'est le chasseur noir. Le jeune Éphèbe à Athènes va passer une partie de sa formation militaire aux marges de la cité. Alors, on revient sur cette lecture du chasseur noir, puisque les zones de frontières dans les cités grecques ne sont pas des zones sauvages, au contraire, mais symboliquement, on a quand même quelque chose de fort derrière ce chasseur noir, donc cet adolescent qui devient un adulte en se confrontant à ce qui fait peur, c'est-à-dire en sortant de, entre guillemets, sa zone de confort, sa famille et sa communauté. Je voulais terminer sur quelque chose qui me paraissait vraiment très parlant, c'est les enfants chez Stephen King. Stephen King, il écrit, lui, pour les adultes, pour le coup, mais clairement, on retrouve toutes ces peurs de l'enfance. Et pourquoi je voulais terminer par Stephen King ? Parce que mes incantations, mes textes de Diodore de Sicile, de Pausanias, à l'époque, s'adressaient à des adultes et pas à des enfants. Stephen King donc reprend les peurs de l'enfance. Alors je pensais notamment à une de ses nouvelles qui s'appelle The Boogeyman en anglais, qui est parue dans un recueil de nouvelles, et dans cette nouvelle qu'on pourrait traduire par le croque-mitaine, c'est un père de famille qui perd ses enfants successivement, qui meurt de maladies qu'on rationalise, on lui dit que c'est de la mort subite du nourrisson, que ce sont des convulsions. Tellement intéressant, les convulsions sont attribuées dans les tablettes mésopotamiennes, on a des textes pour soigner les convulsions des bébés, et elles sont attribuées à des démons, enfin, concept émique, à ces figures maléfiques. Et donc ces enfants meurent, en fait, en réalité, c'est le croque-mitaine qui les a tués d'épouvante. Je pense aussi à son roman « Ça », où on a à la fois les thèmes de l'enfance, de la peur et de l'arrivée à l'âge adulte. On a tout, en fait, qui est réuni dans ce roman, avec ce clown qui tue des enfants et puis tous ces monstres qui incarnent les peurs des enfants et en même temps des adultes. Alors là, le monstre s'adapte à son milieu et à la société qui le porte. Maintenant, c'est un clown qui fait peur parce que c'est quelqu'un qui porte un masque, qui a un faux sourire. Voilà, ça nous dit beaucoup de nos sociétés à nous, mais on a quand même des invariants, ces personnages à la fois bénéfiques et maléfiques qui s'attaquent aux enfants. Et puis, alors, l'invariant, évidemment, les enfants qui sont dévorés et qui peuvent s'en prendre le monstre qui peut s'en prendre aux adultes. Voilà. On retrouve un invariant aussi chez la Majdou. Et puis je voulais finir sur l'enfant, donc cette figure liminale, donc aussi effrayante. Dans The Shining, Donc ils ont intitulé L'enfant de lumière en français à sa sortie, mais le titre français n'était pas trop mal choisi, en tout cas de mon point de vue d'anthropologue. C'est le fils de Jack Torrance qui a le don de médium, et ce motif de l'enfant prophète, eh bien, il apparaît dans un mythe étiologique, c'est-à-dire un mythe qui explique les origines d'un culte d'Artémis en Arcadie. Pausanias nous raconte donc que on vénère Artémis à Pancomenée, ça veut dire la pendue, parce que, eh bien, un jour, des enfants se sont amusés à pendre une figurine d'Artémis. On les a accusés de blasphème et on les a lapidés. S'en est suivi, comme toujours dans les rites de fondation de sanctuaires, une épidémie. Les enfants meurent, les femmes font des fausses couches. On va donc consulter l'oracle, l'oracle de Delphes, qui nous dit, eh bien, il faut construire un tombeau à ses enfants, un héroïne, qu'il soit héroïsé. Il faut mettre en place le culte d'Artémis à Pancomenée, parce que par la bouche de ses enfants, Artémis a exprimé comment elle voulait être vénérée ici. L'enfant, c'est un être liminal, un être d'entre-deux, et il est en contact étroit avec le monde des dieux et aussi avec le monde des morts. Dans le monde grec en particulier, on a des représentations pour l'époque archaïque de convois funéraires, l'ekphora, et les enfants sont représentés là, tout près du défunt. Parfois, eux le touchent, parce que comme ils sont dans l'entre-deux, ils sont non soumis à l'impureté, contrairement à l'adulte, qui lui risquerait d'être touché par l'impureté du mort. Tout cet être liminal. Je voulais aussi donc terminer sur Firestarter, qui va me permettre de boucler ma boucle avec Prométhée. Donc, dans ce texte, une petite fille qui s'appelle Charlie qui a le don de déclencher des incendies. On a clairement ici un lien, on peut en tout cas l'établir peut-être de manière un peu forcée, avec un lien avec Prométhée, le sous-titre du roman Frankenstein de Mary Shelley. La fascination des enfants pour le feu et des humains en général, sa maîtrise étant associée à la naissance de la civilisation, hein, dans la Théogonie d'Hésiode. Le titan Prométhée vole le feu aux dieux et l'enseigne aux hommes. Et le feu, comme ces monstres de l'enfance, comme les enfants eux-mêmes, c'est un élément ambivalent, favorable lorsque l'on s'en sert pour se chauffer, pour se nourrir, pour fabriquer des objets. Le feu peut devenir destructeur. Il faut donc l'apprivoiser et l'encadrer, comme on apprivoisait les enfants, comme on les apprivoise toujours et comme on les encadre toujours. On domestique donc le feu comme on domestiquait les petits d'hommes.
Merci beaucoup, vous pouvez applaudir. Oui.
Merci.
Alors, il y a une autre conférence qui est en train de se mettre en place. On attend peut-être pour une question, sinon je vous invite à venir discuter avec Sophie ensuite. Voilà, merci à elle et merci à tout le monde.